cahier. Est-ce qu'un métier à tisser? Déjà nos gones se sont taillés dans le bouquin de moissonnier. 70 heures par semaine, la Croix-Rousse tombe en paupière. Le piston claque à la migraine, brouillant les cris des révolutionnaires.
Bonjour. Nous vous proposons aujourd'hui, 80 ans après la victoire du Front populaire de 1936, une émission historique sur ce sujet, réalisée ici même en direct le 28 mars 1994, il y a donc 22 ans, avec l'historien Maurice Moissonnier, disparu depuis le 23 juin 2009. Des illustrations musicales vous seront proposées en introduction et au fil des propos de Maurice Moissonnier. Et, après ce deuxième générique, hommage à Maurice Moissonnier, réalisé à partir d'un extrait d'une chanson de Alain Hivert, auteur-compositeur lyonnais, La Cancrologie, vous allez pouvoir entendre, tout d'abord, Montéus, à la fin de sa carrière chaotique, qui évoquait les changements introduits par le Front populaire dans « Le décor va changer ». Et puis la chanson « Jeunesse » de Paul Vaillant-Couturier pour les paroles et Honegger pour la musique, interprétée par l'Ensemble populaire de Paris de l'Union départementale des syndicats CGT. Chorale créée à cette époque de 1936 en liaison avec le mouvement social. Bonne écoute.
Messieurs, le décor va changer. Fini, messieurs, la rigolade. Fini le régime des pantins. Et sans faire de barricade, voici la chute des coquins. Nous voilà enfin en République. Le peuple sera protégé. Le veau d'or n'est plus qu'une vieille bourrique. Messieurs, le décor va changer. Fini les taudis, les mansardes, où la Camarde avait son nid. Nous voulons que le soleil regarde le berceau de nos chers petits. Il y aura de la soupe dans la marmite, nos femmes iront chez le boulanger. Le bonheur nous rendra visite, messieurs, le décor va changer. Pour tous, la vie doit être belle, elle se sera pour nous demain. Fini les heures si cruelles, l'hiver sans feu, les jours sans pain. On veut dormir l'esprit tranquille, sans que les chagrins viennent nous ronger. Tout ça sans faire la guerre civile, messieurs, le décor va changer. Tout ça parce que dans une boîte, on a su jeter un petit bulletin, ce qui fait qu'au lieu d'aller à droite, on marche à gauche, quel bon chemin. Tout ça parce que les gens misères du même côté se sont rangés. Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Messieurs, le décor va changer. Adieu la nuit, v'là la lumière. Au lieu de pleurer, on est joyeux. Et nous rentrons dans la carrière, chemin tracé par nos aïeux. La nation forte sera heureuse, car Léon Blum et son berger, la route est libre et lumineuse, messieurs, le décor va changer. Fini tous les bagnes d'Afrique, fini l'enfer de Biribi, soldats que l'on mène à coups de trique, la France va défendre ses petits. Plus de prostituées par la misère, la femme bientôt pourra siéger, ce sera la revanche des filles mères, messieurs, le décor va changer. Et les gars du Front populaire sont venus en rang serré, le dire à ceux qui sont sous terre, au pied du mur des fédérés.
Jeunesse ardente qui veut escalader le ciel. Dans un cortège fraternel, unissons nos mains frémissantes. Nous allons protéger notre pain, nous bâtirons un lendemain qui chante.
En avant, jeunesse de France, venons feuilleter le jour. La victoire avec tout avance, qui fait les filles de l'espérance.
courons dans son rayon, luttons. Avec tout ce que nous gagnons, brisons la chaîne qui nous broie. Vive la paix, la liberté, notre printemps veut un été de joie.
En avant, je vais te t'apprendre, le nom que je vais le jour. La victoire avec tout avant, il est digne de l'espérance, nous ferons de l'été le jour. À nous la joie, à nous l'amour.
Nous les fils de 93 de la commune aux noirs charniers, et héros de février, pour que la haine enfin s'apaise. Sur nos champs et sur nos cités, nous vous apportons l'unité française.
En avant, je mets de sa force, dans ce que je vais le jour. La victoire avec nos avances, et j'ai fille de l'espérance, nous verrons seul le vieille jour.
Venant d'entendre de Monteus interpréter Le décor va changer, un de ses derniers enregistrements de 1936. Nous reviendrons sur ce personnage dans une autre émission, parce qu'il y a beaucoup à dire sur Monteus. Et puis après, La jeunesse, de texte de Paul Vaillant-Couturier, interprété par une chorale qu'il a créée à cette époque. Donc deux chants de la période de 36, et on va autour de cette période avec des mouvements sociaux très importants qui ont débouché sur des acquis sociaux qui, dans ce 20e siècle, n'ont peut-être pas leur équivalent en France. Je veux dire que 68 a été beaucoup moins profitable pour la classe ouvrière que ne l'avait été 36, on y reviendra. Donc on peut peut-être dire que 36, donc avec Maurice Moissonnier, notre invité, donc que nous remercions, on peut dire que 36 a peut-être commencé le 6 février 34, non ?
Oui, ça a commencé le 6 février 34, mais avant, bon, deux mots, parce qu'en effet, j'ai entendu ces deux chansons avec beaucoup d'émotion, parce qu'elles traduisent vraiment l'état d'esprit, et y compris le personnage. Bon, tu as dit que on reviendra sur Monteus. C'est vrai que Monteus, il a eu des faces multiples, mais il a toujours été, à un certain moment, il a toujours traduit l'expression d'une période. Il a traduit parfaitement l'expression de la période anarchisante. Il a malheureusement traduit aussi la période qui était la période de l'Union sacrée pendant la guerre. Mais là, il traduit parfaitement tous les espoirs que fait naître le Front populaire d'une évolution pacifique et démocratique. Mais en même temps, il rappelle tous les... Il remonte dans son expression, de tout son passé, le rappel de la lutte contre les biribi, contre les bagnes militaires, le féminisme tout à fait caractéristique aussi des anarchistes de l'époque. Et puis aussi, alors, Paul Vaillant-Couturier, c'est cette espèce de force joyeuse. Je ne me souviens plus qui disait que pour traduire le Front populaire, bien, il y avait une chanson, et c'était justement celle-ci. Je me souviens plus quel historien qui terminait un bouquin sur Front populaire en disant s'il fallait garder quelque chose qui traduise cette espèce d'élan et ces espoirs, c'est allons au devant de la vie. Alors, moi, je crois que, en effet, il faut partir de 34. Et il faut partir de 34, il faut partir d'une situation. Alors, c'était la crise. C'était les scandales. Je ne suis pas influencé par l'actualité. Mais... Bon, c'était la crise, c'était les scandales exploités d'ailleurs par l'extrême droite, Stavisky. C'était aussi une Europe inquiétante, où la montée de tous les fascismes et du nazisme était... Bon, alors ça avait commencé en 22-25 avec l'Italie, bien sûr, mais c'était surtout l'Allemagne 1933. Bon, ce sera l'Espagne de 36 à 39. Ce sera la Hongrie de Horthy à partir de 1927 et jusqu'en 40, où ça va aller de plus en plus en se durcissant. C'est l'Autriche, c'est la Roumanie, c'est la Bulgarie, c'est aussi la Grèce, par exemple, Metaxas, le dictateur Metaxas en 1936, justement. Donc il y a à la fois, enfin, il y a cette inquiétude, il y a la gravité de ces menaces. Et elles sont perçues en France, même si en France, il n'y a pas un véritable fascisme. Il y a des organisations fascisantes, fascistoïdes encore à cette époque. Mais très souvent, on entend les historiens dire « Mais sinon, ça a été une histoire le 6 février, on a crié au fascisme, en réalité, il n'y avait pas de réel fascisme. » Mais c'était une évolution. Il y avait un devenir redoutable d'évolution vers un fascisme. Alors, vous aviez effectivement Solidarité française, vous aviez les francistes, vous aviez les Croix de Feu, qui n'étaient pas forcément tous fascistes, mais vous aviez les organisations comme l'Union nationale des combattants, qui tablaient sur aussi des réflexes anciens combattants pour tirer à droite tous les survivants. Bref...
Oui, c'est pas le moindre paradoxe d'avoir vu le 6 février 1934 certaines organisations d'anciens combattants communistes se trouver mêlées aux manifestations.
Oui, mais l'ARAC, c'était l'organisation, participe, mais sur un autre trajet. Effectivement, ce que l'ARAC, bon, qui se situe à gauche et dans la mouvance du Parti communiste, ne veut pas faire, c'est laisser la rue aussi essentiellement à la droite et protester aussi contre les scandales. Il y a deux vues des scandales. L'extrême droite dit c'est la démocratie pourrie et la gauche révolutionnaire dit c'était là une des marques du capitalisme. Le problème est effectivement très difficile. C'est très simple, 6, 9, 12. Le 6 février, la tentative contre le palais Bourbon, l'antiparlementarisme et l'appel à un pouvoir fort et autoritaire. Et puis le 9, les premières répliques, c'est la période quand même d'une grave division qui persiste entre les socialistes et les communistes, qui constituent les deux ancrages essentiels des forces de gauche. De même qu'il y a deux syndicats, la CGT et la CGTU.
Il faut dire en deux mots que dans cette période d'avant 1936, le PS était aussi violemment opposé au PC. Enfin, il y avait des divisions
absolument,
entre eux qui en faisaient des ennemis aussi radicaux que
contre
la droite.
Oui, mais justement, c'est l'histoire d'un rapprochement difficile, le Front populaire. Il y a ça. Puis il y a le 12. Le 12, qui était un lundi, où il y a eu ces grandes manifestations à Paris. Et ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'il y avait deux manifestations, appelées d'un côté par les socialistes et la CGT, de l'autre côté par la CGTU et les communistes, et qui finissent par se fondre de façon spontanée. Et je trouve que c'est important, parce que finalement, en dépit des discussions qui n'aboutissaient pas entre les états-majors, c'est quand même sur le terrain que les choses ont changé. Alors, s'agissant de Lyon, c'est assez intéressant, le 6 février, il y a aussi une agitation. Alors, elle se trouve place Bellecour, place Leviste. Il y a un premier heure près des terreaux avec des manifestants de gauche, d'extrême gauche, qui sont venus quand même quelque peu perturber cette démonstration de l'extrême droite. Mais le 8 février, il y a par exemple des batailles assez dures. Ça va, si vous voulez, de la place des Jacobins à la place Antonin-Poncet, rue de la République, place Bellecour, rue de la Barre, rue des Marronniers, rue Gasparin, jusqu'à la place des Jacobins. Il y a effectivement les mots d'ordre sont très 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 opposés. Et puis à Lyon, alors, le défilé, il n'aura pas lieu le 12 février, faut savoir ça. À Lyon, c'est le 11, on ne fait pas comme tout le monde. Il y a le défilé, et c'est les deux défilés, séparés, mais à la suite, ouverts par socialistes et CGT, et suivis par communistes et CGTU. Mais le 12, il n'y a pas de manifestation commune. Il y a une manifestation sur le territoire de Villeurbanne, dans l'époque, enfin cet endroit qu'on appelle le parc Bonneterre, vers... la rue du 4 août. C'est d'ailleurs une manifestation qui tourne mal. Alors, je signale qu'à cette époque, le secrétaire du Parti communiste s'appelle Valdécrochet, c'était secrétaire régional, à la sortie du meeting, alors il y a une très violente échauffourée avec la police. Voilà, c'est la part, si vous voulez, la différence de Lyon entre Paris pour les débuts. Et alors c'est à partir de là que va s'enclencher difficilement un processus unitaire.
34, on va passer directement à 36, ou comment est-ce qu'on va évoquer cette période qui va...
Deux choses, disons quand même que 34, disons que quand même, après 34, malgré les manifestations, il y a quand même Doumergue qui arrive au pouvoir, et Doumergue avec la volonté d'un pouvoir fort. Bon, mais ça échoue. Et ensuite, il y a un autre ministère, un ministère flandin, qui n'arrive pas non plus à réaliser les objectifs de la droite, et puis finalement un ministère Laval. Et alors, qui prend des mesures sur le plan économique par rapport à la crise, et qui vont faire basculer de plus en plus l'électorat vers une des positions de gauche, parce que c'est une politique d'austérité, de défense de la monnaie, et qui finit par toucher non pas seulement les travailleurs qui sont touchés profondément par le chômage et par la pression sur les salaires, mais y compris les classes moyennes. Et ça, c'est important, c'est ce qui va donner le renfort nécessaire.
Ce qu'on peut dire, c'est que pendant ces deux années, donc, se sont constituées un petit peu péniblement des alliances entre les forces politiques de gauche pour tenter de prendre le pouvoir électoralement.
Oui, les premières démarches, c'est le 5 mars avec le comité de vigilance intellectuelle antifasciste.
Dont le président, récemment nommé, était Victor Bache.
Effectivement. Et puis ensuite, il y a eu déjà des efforts de rapprochement. Mais on va peut-être faire passer un peu de musique. Et puis je dirais quand même comment, justement à Lyon, par contre, il y a eu une avance à l'allumage pour l'unité socialiste communiste. C'est quand même une originalité.
Alors encore une chanson de cette époque, interprétée un petit peu plus tard. Il s'agit de Han Couli. C'était un texte de Louis Aragon.
Faudra la bonne, de la forte corde.
Voilà, c'était Anne Coulis, interprétée par Rosalie Dubois, une chanson de cette période de 36. Voilà, nous sommes le 3 mai 1936 et les élections, le deuxième tour des élections législatives ayant eu lieu, et ben c'est le succès du Front populaire.
Oui, en fait d'ailleurs, bon, c'est les élections à deux tours, hein, et c'est le 3 mai effectivement que véritablement ça se dessine. Alors auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc c'est finalement ce pacte d'unité d'action, ça a été le premier pas en avant entre les communistes et les socialistes. Alors, à Paris, il est signé le 27 juillet 1934. Or, à Lyon, ça a eu lieu beaucoup plus tôt. C'est en juin 34, hein, le 11 juin, que les fédérations, enfin la région communiste et la fédération socialiste du Rhône se mettent d'accord pour une première grande action commune le 24 juin à Gerland. Et au cours de la cérémonie, au cours des manifestations, plus exactement, le secrétaire fédéral du Parti socialiste, Gendre, dit « Malgré le veto opposé par la commission administrative du Parti socialiste à la réalisation du Front uni, la Fédération socialiste du Rhône persévérera dans la voie qu'elle s'est tracée. » Alors, et ça, très vite d'ailleurs, les choses ont évolué, puisque un peu plus d'un mois après, c'était effectivement l'accord. Bon, alors, il y a eu d'abord ceci. Il y a eu alors ensuite les grandes manifestations l'année suivante. Les choses ayant progressé, mais ayant progressé difficilement, avec des affrontements terribles. Hein, tout ça est ponctué. Je pense par exemple le 20 mars 1934, à la salle Blanchon, dans la Presqu'île, il y a des heurts très 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 violents avec un des représentants des combattants de choc, Jean Goy, avec des blessés. Les choses ne se passent pas en douceur, loin de là. Mais finalement, n'est-ce pas, il y a cette chose extrêmement, extrêmement intéressante, c'est que le 20 juillet, donc il n'y a pas encore la signature du pacte d'unité d'action socialiste communiste, puisque ce sera le 27, mais le 20 juillet, la Voix du Peuple, le journal communiste, appellera les communistes à assister à un meeting que Blum va tenir rue Boileau, 129 rue Boileau, à la salle de l'Unitaire, qui était un des grands lieux de l'époque. On n'avait jamais vu ça, et c'est à partir de là effectivement que les choses s'accélèrent. Alors 14 juillet 1935 déjà, il y a l'année suivante la grande manifestation auquel commencent à participer les radicaux. Et les radicaux, en octobre 35, il y a eu le fameux appel de Maurice Thorez pour élargir jusqu'aux radicaux. Je pense que c'est les classes moyennes qui sont touchées à ce moment-là par la politique de Laval, politique économique de Laval. En même temps, s'opère la réunification syndicale, et c'est quand même important, n'est-ce pas? En 1935, à la fin de 35, il y a une réunion commune déjà des syndicats, et le congrès de réunification syndicale, c'est Toulouse, n'est-ce pas, en 1936. Donc, à partir de ce moment-là, les éléments sont mis en place pour assurer la victoire électorale dont, précisément, on vient de parler.
Oui, juste auparavant, le 1er mai 36, là où je suis, avait été un énorme succès. Oui, il y avait eu 120 000 métallurgistes de la région parisienne qui étaient en grève, et notamment Renault. Et pour la première fois depuis 20 ans, l'usine devait fermer ses portes avec 25 000 ouvriers en grève.
Oui, parce qu'à cette époque-là, effectivement, pour nos auditeurs, je crois que c'est important à souligner, le 1er mai était un jour essentiellement de lutte, et n'était pas un jour férié reconnu. Hein. Le grand mouvement de 1936, il naît en partie de là. De la protestation dans nombreuses usines, de licenciements de gens qui sont allés manifester, qui ont fait grève et qui sont allés manifester en 1936. Et alors, on signale par exemple, c'est un exemple au Havre, mais il y a une entreprise, je ne me souviens plus exactement du nom de cette entreprise, où à Lyon ça se produit exactement la même chose. Et la grève va démarrer à Lyon en protestation du licenciement dans une petite entreprise de la rue, qui était les routes de Vienne, hein, et qui...
Les aciéries de Longwy, non,
Non, c'était... C'était une petite entreprise d'une... une quarantaine de personnes, pas plus, hein. Mais il y avait le père et le fils qui étaient d'ailleurs des diffuseurs des documents et des tracts de la CGTU, et tout le monde se met en grève. Et c'est à partir de là que ça va démarrer à Lyon, avec un certain décalage, avec un certain retard, par exemple, sur le Havre, sur la région parisienne.
Hein. Alors, on va peut-être parler un peu du début de la grève. Donc, le 3 mai, le Front populaire est élu, autrement dit, un gouvernement de gauche, et à la différence de ce qui s'est passé en 81, qui est plus proche de nous, on pourrait penser que les gens vont être contents et vont attendre que ce gouvernement prenne les décisions et les mesures qu'il attendait de lui. Mmh. Eh bien, finalement, non. Le mouvement de 36, ça va se caractériser par quoi ? Ben, par une espèce de surenchère syndicale, c'est-à-dire que un gouvernement de gauche étant élu, les ouvriers vont se mettre en grève, et pas tous en même temps, mais ce mouvement va faire contagion et prendre des proportions absolument gigantesques en très peu de temps. Les premières grèves, c'est le 11 mai, semble-t-il, donc une semaine.
Oui, les premières, mais le mouvement prend vraiment son élan le 26 mai. Alors attention, à ce moment-là, il n'y a pas le gouvernement. Le gouvernement n'est pas formé encore. Hein. Le gouvernement sera formé le 4 juin. Ça a d'ailleurs accéléré la formation. Hein. Bon, parce qu'il y a débat, participation, non-participation des communistes. Hein. Bon, il y a toute la série le classique de démarches pour la constitution du gouvernement, surtout que ça représentait un renversement important. Et il y a effectivement cette impatience. Je n'utiliserai pas tellement le mot de surenchère, mais d'exigence. Il y a une exigence populaire, parce que ça existe, les comités de Front populaire dans l'ensemble du pays. Et moi, je trouve que c'est là le problème, le gros problème qui se pose autour de programme. Quand il y a un programme, il faudrait mettre en place une traduction populaire au-delà des états-majors, où justement, il y a une association des gens qui sont directement concernés. Et là, pendant cette courte période, ça existe. Et à partir de là, bon, outre le fait que la réunion syndicale des deux parties de la CGT donnent maintenant une force formidable, que d'emblée, il y a un mouvement de syndicalisation extrêmement important, et que les grèves vont accélérer à leur tour, à tel point que les directions syndicales seront littéralement débordées. Hein. C'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc c'est ça. Et bien entendu, en face de ça, il faudra réagir rapidement. Le gouvernement est constitué le 4 juin. Le 7 juin, il y a d'abord tout de suite les premiers accords Matignon, et puis ensuite le vote des lois, hein, du 11 au 19 juin, de lois qui sont, pour l'époque, quelque chose d'extraordinaire, qui sont une rupture considérable avec la condition ouvrière de la période. Alors moi, quand j'ai entendu quelquefois à propos du programme commun de gouvernement, une déclaration qui existe du Parti communiste et du Parti socialiste disant que en 82, disant que on avait déjà réalisé plus que le Front populaire et la Libération, en tant qu'historien, je m'excuse, mais j'ai souri. Hein, parce que vraiment, précisément parce qu'il n'y avait pas cette puissance de ce mouvement des masses, les choses n'ont pas eu cette ampleur, ce caractère un peu de rupture.
On va peut-être faire une autre pause musicale avant de revenir à notre sujet. On va écouter une chanson qui a été enregistrée en 1936 qui s'appelle « La belle France ». Elle a été composée par Gilles et Julien et elle est présentée quelquefois comme une chanson qui a été un petit peu l'hymne du Front populaire.
Sur la route du passé, vois-tu venir la France? Quelle belle garce l'Afrique d'ondée, dans ses beaux habits brodés, couleur d'espérance.
Elle a des yeux étoilés, quand elle marche, elle danse. Portons que l'esprit salique, l'air qu'elle aisance.
Sur la route du passé, vois-tu venir la France? Le cœur vif, le corps rassé, l'Afrique d'ondée, vive la rose rouge. Doré comme épine blé dès son adolescence, accouché la rive d'ondée, avec ses rois bien rappelés, la belle alliance, on ma foi bien travaillé, à chaque délivrance, accouché d'une cité, terre de plaisance,
de terre à vigne, terre à blé, qu'elle a grandi la France,
a rempli son beau grenier, la rive d'ondée, vive la rose rouge et le joli bleu vert.
Il a souffert à lutter pour son indépendance, à chanter la rigondée, l'amour et la liberté.
Mais désespérance a vu le fruit se gâter, là trop d'abondance, ici trop de pauvreté, trop de différence.
Son grand cœur s'est révolté, reprenant sa balance,
a rêvé d'égalité, la rigondée. Vive la rose rouge et le joli bleuet, qu'à mon bouquet j'ajoute.
Sur la Bastille a sauté la Carmagnole danse.
Citoyens, la Rigondée, salut et fraternité, vive l'espérance.
Le soleil faisait monter la bonne semence,
mais les gros rats sont pestés, ceux de la finance, et leur féodalité, oh la sinistre engeance. On corrompu la cité, la Rigondée, vive la rose rouge et le joli bleuet, à mon bouquet j'ajoute un brin de blanc muguet. Mais entendez-vous monter du fond du grand silence cet appel de la Rigondée, de tous les déshérités, assez de souffrance. Mur d'argent, obscénité, ombre sur la France, on te refera sauter un jour patience. Liberté, égalité, ces grands noms qui t'offensent redeviennent en vérité la Rigondée. Alors au soleil d'été, on verra la France, qu'elle est belle la Rigondée, saluant l'humanité, marchant en cadence.
À ses grands yeux étoilés, le ciel se fiance,
elle est comme un beau voilier sur la mer qui danse, mère de la liberté, alors toute la défense. Sans
hésiter, la Rigondée. Gilles et Julien, un hymne du Front Populaire, une composition de 1936 enregistrée, donc original, enregistrement original de cette époque. 1936 est son grand mouvement de grève, c'était aussi le groupe Octobre qui parcourait les usines en grève, le groupe Octobre qui interprétait scène théâtre de rue, on dirait aujourd'hui, des scènes écrites par Jacques Prévert, et nous allons là écouter un court extrait d'une de ces scènes lues par Jacques Prévert. Il s'agit de Citroën. Citroën à l'époque c'était un peu Monsieur Soir d'aujourd'hui, Soir Alcatel-Alstom. Le groupe Citroën avait une influence et une largesse à peu près aussi grande que celle que peut avoir aujourd'hui Alcatel-Alstom. Donc en l'honneur de Monsieur Soir, nous écoutons Jacques Prévert nous lire Citroën.
Citroën, à la porte des maisons closes, c'est une petite lueur qui luit, quelque chose de faiblard, de discret, une petite lanterne, un quinquet. Mais sur Paris endormi, une grande lueur s'étale, une grande lueur grimpe sur la tour. Une lumière toute crue, c'est la lanterne du bordel capitaliste, avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. Citroën, Citroën, c'est le nom d'un petit homme, avec des chiffres dans la tête, un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon, un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même. Bénéfice net, une chanson avec des chiffres qui tournent en rond, 300 voitures, 600 voitures par jour, trottinette, caravane, expédition, autochnie, camion, bénéfice net, millions, Citroën. Même en rêve, on entend son nom. 500, 600, 700 voitures, 800 sous camions, 800 tanks par jour, 200 corbillards par jour, 200 corbillards. Et que ça roule, il sourit. Il continue sa chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout des ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend même pas crever. Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant, au casino, il entend bien la voix du croupier. 1 million, monsieur Citroën. 1 million. S'il gagne, c'est tant mieux. C'est gagné. Mais s'il perd, c'est pas lui qui perd, c'est ses ouvriers. C'est toujours ceux qui fabriquent qui, en fin de compte, sont fabriqués. Et le voilà qui se promène à Deauville. Le voilà à Cannes qui sort du casino. Le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais avec un petit veston clair. Beau temps aujourd'hui. Le voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut lui foutre, une bouteille de lait? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Il a son nom sur la tour. Il a des colonels sous ses ordres. Des colonels, gratte-papiers, garde-chiourme, espions. Les journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son pagasson. Citron, citron, bénéfice net, millions, millions. Aussi, le chiffre d'affaires vient à baisser pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas. Il suffit d'augmenter la cadence et de baisser les salaires. Baisser les salaires. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer, faire la grève. La grève. La grève. Vive la grève.
Oui, c'est un peu de, enfin, c'est de la veine de parole. Par exemple, aussi le paysage changeur de Prévert, il traduit aussi tout cela. Et je dois dire que moi, en 1968, je me suis senti revivre un petit peu, enfin revivre, vivre ce qui s'était passé en 36, parce que cette jonction des travailleurs et des artistes qui existait en mai 68. Bon, moi, j'ai passé de nombreuses heures dans les usines, à la fois de débats, de participation à des discussions. À la
dimension suite du champ, festive qui a duré pendant un mois et demi.
Cet aspect festif. C'est vrai que il y a eu une sorte de répétition en 68. Là, c'est vraiment les deux choses qui peuvent se rapprocher. Bon, et alors les choses sont allées très vite parce que. À partir de ce moment-là, ça a été donc les 40 heures, les conventions collectives, les congés payés, avec cette chose invraisemblable, parce que le patronat disant mais il n'est pas possible, il n'est pas possible de donner 15 jours payés, de rien faire à des ouvriers. Vous allez nous tuer, comme on dit maintenant, si vous diminuez la durée de la semaine de façon significative, mais les entreprises ne supporteront pas ça. Hein.
Ben oui, depuis le début de l'histoire industrielle, on a vu des conditions très dures que les gens, par leur lutte, ont fait alléger. Et à chaque fois, on a vu le patronat crier « mais on va nous étrangler, oui, c'est notre exactement. Fin ». Et aujourd'hui, ça continue quand des gens parlent de 30 heures ou 32 heures de travail au lieu de 40. Quoi.
Oui, absolument. Oui, alors, il y a eu effectivement toutes ces choses-là. Alors, ça a été très rapide. Hein. Il faut quand même dire que ça a duré pratiquement une année. Hein. Enfin, une année de plus exactement de juin à février de l'année suivante, où déjà on a décrété la pause. Hein. Sont arrivées toute une série de choses, des graves problèmes. Ça a été quand même le problème de l'Espagne, hein, qui avait précédé la France dans le Front populaire, hein, et qui connaît le 18 juillet l'insurrection franquiste, et ce problème qui se pose, et qui est un problème difficile, parce que la gauche, elle est pacifiste. La gauche, elle ne veut pas s'engager dans la guerre, bien sûr, mais il y a aussi la solidarité. Et justement, je crois que trop souvent, on parle... on dit la non-intervention. Ce qui était réclamé, c'était moins une intervention militaire qu'une aide normale, hein, en fournissant les armes, une aide au gouvernement républicain légal, victime de l'insurrection des généraux. Mais,
oui, c'est dans un contexte difficile parce qu'en même temps le parti communiste était pas très à son aise puisque l'URSS de l'époque ne soutenait pas vraiment l'insurrection anarchiste de l'Espagne.
Non, je crois qu'il faut nuancer. Il y avait des lieux où il y a eu des accrochages importants, c'est la Catalogne, hein, c'est la région d'Oviedo. Il y a eu aussi, par exemple, un type comme Durruti. Durruti, justement, anarchiste, bon, et qui badinait pas. hein, avec les problèmes, eh bien, bon, c'est porté pour la défense de Madrid très tôt avec sa fameuse colonne de Ruti. Il y avait bon, la CNT qui avait de très très violentes oppositions avec les communistes. Mais c'était extraordinaire parce que les premières volontaires des brigades internationales, avant même qu'elles existent, qui vont se rendre, il y a des Lyonnais qui ont été parmi les tout premiers. Si vous prenez l'histoire de du Front populaire de Delperier de Bayac, il cite même les noms, dont l'un était d'ailleurs journaliste à la Voix du Peuple. Mais il y a eu toute une série de jeunes qui s'étaient rendus en Espagne, qui s'étaient rendus en Catalogne, parce que il y avait des Jeux olympiques, des Jeux ouvriers, hein, des sportifs, mis en opposition avec justement les Jeux olympiques qui se déroulaient à Berlin sous la direction, enfin sous le patronage d'Hitler, hein, ça, à cette époque-là. Puisque... Et alors, il y a eu là des Français qui sont allés. Alors, ils sont passés des troupes de la CNT à la colonne de Ruti, au Parti ouvrier d'unification marxiste, tout ça. Chacun avait ses détachements, ses armées. C'est vrai que Malraux traduit parfaitement, hein, dans son roman où il traite de la guerre d'Espagne, cette espèce de dans l'espoir, le début de l'espoir, d'ailleurs, montre le passage de cette espèce de tumulte extraordinaire à une force qui peu à peu s'organise, car c'était absolument nécessaire en face de la des armées disciplinées et de métier pour l'essentiel, hein, qui déferlaient à partir du Maroc espagnol et tout cela. Bon, il y a eu la nécessité, effectivement, de trouver des solutions qui étaient, là aussi, des solutions de compromis. Et ces solutions de compromis n'ont pas été toujours très, très facilement trouvées, dans la mesure où il y avait des gens qui, sur le plan idéologique, étaient très opposés. Alors, vous aviez trotskiste communiste et aussi anarchiste communiste, quoi, hein. C'est vrai.
Et cette guerre d'Espagne a eu, sur le mouvement ouvrier de l'époque, une grosse influence, vous pensez? Gens étaient préoccupés par...
Ça a eu, sur le mouvement ouvrier, enfin, ça a eu effectivement quelque chose d'important. Disons par exemple que dans le monde ouvrier, il y a un très grand effort de solidarité quand même. Et venant aussi bien des communistes que des socialistes. Alors, la CGT joue un rôle important à cette époque-là aussi. Hein, bon, alors, c'est des collectes d'argent, c'est des collectes d'aliments, c'est des collectes de moyens.
Au niveau de l'État, il y a eu
c'est aussi
des réfugiés.
Compris des, non, mais je m'excuse deux minutes. C'est aussi des collectes trafic, même d'armes. Hein. Il y a une histoire qui éclate à Villeurbanne, où un conseiller municipal communiste qui a un petit atelier, on transporte des caisses, et brusquement il y a une caisse qui dégage, c'était des grenades en direction de l'Espagne qu'on avait fabriquées, envoyées. Mais c'était ça aussi la solidarité. Hein.
Et la question des réfugiés, non
La question des réfugiés, l'accueil des réfugiés.
Était plus généreux qu'aujourd'hui avec les Bosniaques. Hein.
Alors oui, c'est ça, bon, mais bien sûr, absolument, c'est vrai. Mais alors avec cette chose terrible, c'est que en même temps, ça va écarteler les forces du Front populaire, les radicaux de plus en plus boudeurs, à l'exception de quelqu'un comme Pircotte, qui fait des efforts remarquables, qui organise avec Blum aussi une espèce de contrebande pour faire passer des armes, quelques avions, des choses comme ça. Mais sur l'essentiel, il faut dire que ça ressoude toute la droite et l'extrême droite, n'est-ce pas, qui accuse de bellicisme le Front populaire, qui se trouvait un peu, c'est une situation à front renversé, alors que cette droite était toujours belliciste et cocardière. Cette fois, c'est ce bloc de gauche qui est accusé d'être belliciste, et on entend le langage pacifiste dans la bouche de Laval, dans la bouche de Déa, la bouche de Doriot.
Une droite qui souhaitait ardemment l'invasion de la France par l'Allemagne.
Exactement.
Ne pouvait être que pacifiste.
Eh ben oui.
C'est une des problématiques de cette période.
Exactement.
De Francis. Ce qui est surprenant quand même, c'est que ces acquis sociaux ont été réalisés en l'espace de deux mois, quoi. Si on regarde très bien, vite. 3 mois, oui, 3 mai, mi-juin, le mouvement était.
Mais parce qu'il y avait cette pression des masses, il y avait cette action des masses. Mmh. Et moi, je crois que pour l'historien, c'est quand même important. Bon, le rôle du mouvement des masses, c'est finalement ce qui est décisif.
Oui, et ce mouvement, à travers, bon, certes, les organisations, puis à travers la grève qui se généralise
aussi.
Ça a fonctionné en 36, ça a fonctionné en 68 avec des résultats beaucoup moins brillants. Et on a l'impression, dans le mouvement qui se passe actuellement, le mouvement des lycéens, ce qui semble ne pas embrayer pour que le mouvement prenne de l'ampleur, c'est que ce mouvement ne passe difficilement à la grève, déjà au niveau des lycéens et des universités. Et on voit pas très bien, on le voit mal s'étendre vers le monde ouvrier qui, d'ailleurs, n'est plus ce qu'il est.
Parce qu'en 68, il y avait déjà des signes importants de crise. Enfin, il n'y avait pas une masse de chômeurs comme ça. C'était très, très, très difficile. Il y avait des chômeurs, précisément, très nombreux en 1936. Mais justement, il y a eu cette espèce d'appel à la fois le monde du travail qui était dans une situation très difficile, avec ses contradictions terribles, avec des gens qui travaillaient 48 heures, exténués pour des salaires qui augmentaient très peu, et puis à côté de ça, aux portes des usines, les chômeurs qui étaient aussi exclus dans la situation actuelle, peut-être à certains moments pire que la situation actuelle, parce que il n'y avait pas d'organisation réellement d'aide. L'État s'était complètement déchargé sur les municipalités.
Le problème numéro un était le chômage, et pourtant le mouvement est parti des gens qui travaillaient.
Bien sûr.
Tout comme aujourd'hui, ce qui me frappe dans ce qui se passe, c'est que ça fait des années maintenant qu'on se dit, mais avec tous ces chômeurs, ça va bien craquer un jour quelque part. Et bizarrement, ça craque pas du côté des chômeurs existants, mais des futurs chômeurs, on peut dire. C'est-à-dire, c'est les lycéens, les étudiants qui se sentent.
Le chômeur est souvent quelqu'un qui finalement arrive à être isolé. La réplique, c'est finalement la tentative de création de comités de chômeurs et les syndicats, la CGT en particulier, font de gros efforts. Mais c'est toujours très difficile parce que il y a plus rassemblement régulier sur le lieu du travail, il y a beaucoup de difficultés et très rapidement les chômeurs sont conduits à une sorte de repli parce qu'ils sont écrasés par tout un tas de problèmes. Et c'est vraiment une question très très difficile, l'organisation là.
Alors, si on revient aux acquis de 36, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les congés payés. Ça, c'était vraiment une nouveauté totale. C'était
une nouveauté absolue.
Absolue. Inimaginable 6 mois avant.
Il y a eu donc la semaine de 40 heures, c'est-à-dire, on travaillait plus le samedi.
Ça s'est moins bien mis en place, on peut dire.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, ensuite, d'ailleurs, il y a eu des rectifications qui ont été faites très tôt, à partir de 1937, à partir du gouvernement Chautan, et puis, du gouvernement Daladier, c'est le gouvernement Daladier a liquidé. D'ailleurs, c'est bien simple, la rupture du Front populaire, c'est le 30 novembre 1938. Cette grève qui est férocement réprimée, durement réprimée, qui avait été décidée par le congrès de Nantes de la CGT, avec difficulté d'ailleurs, et qui devait être une grève générale, contre le retour des décrets-lois, c'est-à-dire des décisions non votées par le Parlement et qui est dans le sens, justement, d'une liquidation de ces acquis. Mais malgré tout, n'est-ce pas, il faut quand même retenir que la question des conventions collectives obligatoires,
oui,
des 40
heures... Il y a aussi les conventions collectives,
ça quand même, ça quand même, oui, ça a quand même duré au-delà, et ça a été repris. Mais bien entendu, en 38...
Puis il y avait les augmentations de salaire aussi.
Oui, bien sûr, les augmentations de salaire considérables. Pour les plus bas salaires, quelquefois, il y a des augmentations de salaire qui allaient près du doublement du salaire pour les salaires les plus faibles, bien entendu.
Bien, nous allons donc terminer bientôt cette émission. Nous vous proposons comme dernier morceau de musique un morceau qui est complètement de l'époque aussi.
Oui.
C'est « Au-devant de la vie » de Jeanne Perret.
Je voudrais dire deux mots à propos de ça, parce que ça aussi c'est une chanson très qui traduit parfaitement les choses. On vient de parler de la situation dans laquelle étaient les travailleurs. Eh bien, brusquement, voilà qu'ils vont pouvoir redécouvrir la campagne. Ces quartiers ouvriers, ces banlieues ouvrières de l'époque étaient des choses extrêmement tristes. Et justement, le poème de Prévert, Le paysage changeur, c'est ça aussi. C'est la découverte de la nature, pour certains la découverte émerveillée de la mer, et puis les espoirs de construire un autre monde à dimension humaine. Et Au-devant de la vie, sur la musique de Shostakovitch, c'est effectivement...
Voilà, des espoirs qu'on est en train de retrouver sous une forme légèrement changée. Voilà, nous vous remercions.
Pour clore cette émission, qui est, nous vous le rappelons, une rediffusion de l'émission Bistentlac 106, réalisée en direct dans ses studios le 28 mars 1994, il y a donc 22 ans, avec l'historien lyonnais Maurice Moissonnier, disparu depuis le 23 juin 2009, nous écouterons cette version du Paysage changeur, mis en musique par Victor Coulon, et interprété en 2012 par le groupe Barrio Populo.
De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. Les pauvres, les travailleurs ne voient pas ces choses. Leur soleil c'est la soif, la poussière, la sueur, le goudron. Et s'ils travaillent en plein soleil, le travail leur cache le soleil. Leur soleil c'est l'insolation. Et le clair de lune pour les travailleurs de nuit, c'est la bronchite, la pharmacie, les emmerdements, les ennuis. Et quand le travailleur s'endort, il est bercé par l'insomnie. Et quand son réveil le réveille, il trouve chaque jour devant son lit la sale gueule du travail qui ricane et qui se fout de lui. Alors il se lève, alors il se lave, et puis il sort à moitié éveillé, à moitié endormi. Et il marche dans la rue à moitié éveillé, à moitié endormi. Et il prend l'autobus, le service ouvrier, et l'autobus, le chauffeur, le receveur, et tous les travailleurs à moitié réveillés, à moitié endormis, traversent le paysage figé entre le petit jour et la nuit. Le paysage de briques et de fenêtres, à courant d'air de corridor. Le paysage éclipse, le paysage prison, le paysage sans air, sans lumière, sans rire ni saison. Le paysage glacé des cités ouvrières, glacé en plein été comme au cœur de l'hiver. Le paysage éteint, le paysage sans rien, le paysage exploité, affamé, dévoré, escamoté. Le paysage charbon, le paysage poussière, le paysage cambouis, le paysage mâche vert, le paysage châtré, gommé, effacé, relégué et rejeté dans l'ombre, dans la grande ombre, l'ombre du capital, l'ombre du profit. Et sur ce paysage, parfois un astre lui, un seul, le faux soleil. Le soleil blême, le soleil couché, le soleil chien du capital, le dieu soleil de cuivre, le dieu soleil clairon, le dieu soleil ciboire, le dieu soleil fistule, le dégoûtant soleil du roi soleil, le soleil de Stirlitz, le soleil de Verdun, le soleil fétiche, le soleil tricolore et incolore, l'astre des désastres, l'astre de la vache qui l'astre de la tuerie. connaîtront et ils se comprendront. Et ils verront leur nombre et ils regarderont l'ombre. Et ils riront et ils s'avanceront. Une dernière fois, le capital voudra les empêcher de rire, ils le tueront. Et l'enterreront dans la terre sous le paysage de misère. Et le paysage de misère, de profit, de poussière, de charbon. Ils le brûleront, ils le raseront. Et ils en fabriqueront un autre en chantant. Un paysage tout nouveau, tout beau. Un vrai paysage tout vivant. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil. Et même, ils changeront l'hiver en printemps.
Thank you.